From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City, voici la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite. Henry B. Eyring, premier conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session.
President Henry B. Eyring, first counselor in the first presidency of the church, will conduct this session.
Mes frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue cet après-midi à la cinquième et dernière session de la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Thomas Monson, qui préside cette conférence, m'a demandé de diriger cette session. Nous adressons nos salutations chaleureuses aux membres de l'Église et aux amis de partout qui suivent cette session à la radio, à la télévision, sur l'Internet ou par satellite. La musique de cette session sera interprétée par le chœur du Tabernacle sous la direction de Mac Wilberg et Ryan Murphy avec Bonnie Goodliffe à l'orgue. Le chœur ouvrira cette session en chantant They, the Builders of the Nation. Ensuite, David Elbeck, président général des Jeunes Gens, fera la prière d'ouverture. Après quoi, le chœur chantera Quand Jésus reviendra.
Of the nation, blazing trails along. Our Father in heaven.
Notre très cher Père céleste.
There's an outpouring of the Spirit which stirs our souls.
Nous pouvons ressentir ton esprit lors de cette conférence générale et nous sommes tellement reconnaissants pour cela. Nous reconnaissons ta main dans tout ceci. Nous t'aimons, Père. Nous aimons ton Fils Jésus-Christ. Nous aimons et nous soutenons nos dirigeants. Nous prions pour tous ceux qui partageront des messages et de la musique aujourd'hui et qui seront des instruments entre tes saintes mains. Puissions-nous écouter avec sincérité et repartir de cette conférence avec la détermination de faire ce qui est juste. Nous te prions pour cela, au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Thank you.
Nous aurons maintenant le plaisir d'entendre Quentin L. Cook et Neil L. Anderson du Collège des Douze Apôtres. Après leur discours, David M. McConkie, premier conseiller dans la présidence générale de l'École du Dimanche, nous adressera la parole.
Au début de notre mariage, ma femme Marie et moi avons décidé qu'autant que faire se peut, nous choisirions des activités où nous pourrions aller ensemble. Nous voulions aussi faire attention à notre budget. Marie aime la musique et craignait sans doute que j'insiste trop pour les manifestations sportives. Elle a donc négocié pour que lorsque les manifestations étaient payantes, nous choisissions deux comédies musicales, opéras ou activités culturelles pour un match payant. Au départ, j'étais hostile à l'élément opéra, mais avec le temps, j'ai changé d'avis. J'ai particulièrement appris à aimer les opéras de Giuseppe Verdi. Le bicentenaire de sa naissance aura lieu cette semaine. La curiosité de Verdi fut aiguisée dans sa jeunesse par le prophète Jérémie, et en 1842, à 28 ans, l'opéra Nabucco, le diminutif italien de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, lui fit atteindre la célébrité. Cet opéra contient des notions tirées du livre et des lamentations de Jérémie, ainsi que des psaumes dans l'Ancien Testament. Il parle de la conquête de Jérusalem, ainsi que de la captivité des Juifs et de leur servitude. Le psaume 137 a inspiré Verdi pour le touchant et inspirant Cœur des esclaves hébreux. Dans la Bible du roi Jacques, l'entête de ce psaume est très théâtrale. Je cite, « Pendant qu'ils étaient en captivité, les Juifs pleurèrent sur les bords des fleuves de Babylone. À cause de leur chagrin, ils ne pouvaient supporter de chanter les cantiques de Sion. » Mon but est de passer en revue plusieurs formes de servitude et d'assujettissement. Je vais comparer certaines situations de notre époque à celles de l'époque de Jérémie avant la chute de Jérusalem. J'adresse cette voie d'avertissement, reconnaissant que la plupart des membres de l'Église évitent fidèlement le comportement qui a tellement offensé le Seigneur à l'époque de Jérémie. Les prophéties et les lamentations de Jérémie sont importantes pour les saints des derniers jours. Jérémie et la Jérusalem de son époque constituent la toile de fond des premiers chapitres du Livre de Mormon. Jérémie était contemporain du prophète Léhi. Le Seigneur fit connaître sa préordination à Jérémie de façon imagée. « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi, prophète des nations. » Léhi reçut une mission, une tâche et un appel différent de la part du Seigneur. Il ne fut pas appelé dans sa jeunesse, mais dans sa maturité. À l'origine, sa voix fut une voix d'avertissement, mais après qu'il eut fidèlement proclamé le même message que Jérémie, le Seigneur lui commanda de partir dans le désert avec sa famille. Ce faisant, Léhi apporta des bénédictions non seulement à sa famille, mais aussi à tout le monde. Au cours des années qui précèdent la destruction de Jérusalem, les messages donnés par le Seigneur à Jérémie sont effrayants. Il dit « Mon peuple a changé sa gloire contre ce qui n'est d'aucun secours. Ils m'ont abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » En parlant des calamités qui s'abattraient sur les habitants de Jérusalem, le Seigneur dit en se lamentant « Pour eux, la moisson est passée, l'été est fini et ils ne sont pas sauvés. » Dieu a voulu que les hommes et les femmes soient libres de choisir entre le bien et le mal. Lorsque les mauvais choix deviennent la caractéristique dominante d'une culture ou d'une nation, les conséquences sont graves, à la fois dans cette vie et dans celle à venir. Les gens peuvent devenir esclaves ou s'assujettir non seulement à des drogues nocives dont ils deviennent dépendants, mais aussi à des philosophies nuisibles qui asservissent et empêchent de mener une vie juste. Quand on se détourne du Dieu vrai vivant, que l'on adore de faux dieux comme la richesse et la célébrité, et que l'on se livre à une conduite immorale et impie, on est entraîné dans la servitude, dans toutes ces manifestations insidieuses, notamment la servitude spirituelle, physique et intellectuelle, et parfois la destruction. Jérémie et Léhi ont aussi enseigné que les personnes fidèles doivent aider le Seigneur à établir son Église et son royaume et à rassembler l'Israël dispersé. Ces messages ont été repris et réitérés au fil des siècles dans toutes les dispensations. Ils sont au cœur du rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans cette dispensation qui est la dernière. La captivité des Juifs et la dispersion des tribus d'Israël, notamment des 10 tribus, sont des facteurs doctrinaux importants du rétablissement de l'Évangile. Les 10 tribus perdues constituaient le royaume d'Israël au nord. Elles furent emmenées en captivité en Assyrie en 721 avant Jésus-Christ. Elles s'en allèrent dans les pays du nord. Notre 10e article de foi dit « Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus. Nous croyons également que dans l'alliance que le Seigneur a faite avec Abraham, non seulement la postérité d'Abraham sera bénie, mais aussi tous les peuples de la terre. Comme Russell M. Nelson l'a déclaré, le rassemblement n'est pas une question d'endroit, c'est une question d'engagement personnel. Les gens peuvent être amenés à connaître le Seigneur sans quitter leur pays natal. Notre doctrine est claire. Le Seigneur dispersa et affligea les 12 tribus d'Israël à cause de leur injustice et de leur rébellion. Il utilisa cependant aussi cette dispersion de son peuple élu parmi les autres nations du monde pour bénir celles-ci. Cette période tragique nous apprend des leçons précieuses. Nous devons faire tout notre possible pour éviter le péché et la rébellion qui mènent à la servitude. Nous savons aussi qu'il est indispensable de mener une vie vertueuse pour aider le Seigneur au rassemblement de tous ses élus et au rassemblement littéral d'Israël. La servitude, l'assujettissement, la dépendance et l'esclavage surviennent de nombreuses manières. Ils peuvent être un asservissement physique, mais également une perte ou une diminution du libre arbitre qui peut entraver notre progression. Jérémie dit clairement que l'iniquité et la rébellion ont été les raisons principales de la destruction de Jérusalem et de la captivité à Babylone. D'autres genres de servitude sont tout autant destructeurs de l'esprit humain. Le libre arbitre peut être malmené de bien des façons. Je vais en mentionner 4 qui sont particulièrement pernicieuses dans la culture d'aujourd'hui. Premièrement, les dépendances qui diminuent le libre arbitre contredisent des croyances morales et détruisent la santé, créent une servitude. Les effets de la drogue et de l'alcool, de l'immoralité, de la pornographie, des jeux d'argent, de l'assujettissement financier et d'autres afflictions imposent aux personnes asservies et à la société un fardeau d'une telle ampleur qu'elle est presque impossible à évaluer. Deuxièmement, les dépendances ou les prédilections, qui ne sont pas mauvaises par nature, peuvent faire perdre le temps précieux qui nous est alloué, qui pourrait autrement être utilisé pour atteindre des objectifs vertueux. Ce peut être notamment l'utilisation excessive des médias sociaux, des jeux vidéo et numériques, du sport, des loisirs et bien d'autres. L'une des questions les plus importantes que l'on doit affronter dans la plupart des cultures, c'est comment peut-on dégager du temps pour la famille ? À l'époque où j'étais le seul membre de l'Église dans notre cabinet juridique, une avocate m'a expliqué qu'elle avait tout le temps l'impression de jongler avec 3 balles. L'une était son métier d'avocate, l'autre son mariage et la dernière ses enfants. Elle avait presque renoncé à se réserver du temps pour elle. Elle était très inquiète qu'une des balles soit toujours au sol. Je lui ai proposé que notre groupe se réunisse et que nous discutions de nos priorités. Nous avons décidé que la raison principale pour laquelle nous travaillons était de subvenir aux besoins de notre famille. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que gagner plus d'argent était bien moins important que notre famille, mais nous étions également conscients qu'il était essentiel de servir nos clients au mieux de nos capacités. La discussion est ensuite passée à ce que nous faisions au travail qui n'était pas nécessaire et ne permettait pas de garder du temps pour la famille. Y avait-il une pression pour passer du temps au travail qui n'était pas essentiel ? Nous avons décidé que nous devions avoir pour but de créer un cadre propice à la famille, à la fois pour les femmes et pour les hommes. Soyons au premier rang pour garder du temps pour la famille. Troisièmement, l'assujettissement le plus universel de nos jours, tout comme il l'a été au long de l'histoire, est l'idéologie ou les croyances politiques incompatibles avec l'Évangile de Jésus-Christ. La substitution des philosophies des hommes aux vérités de l'Évangile peut nous éloigner de la simplicité du message du Sauveur. Quand l'apôtre Paul alla à Athènes, il essaya d'enseigner la résurrection de Jésus-Christ. À propos de cette tentative, nous lisons dans les Actes « Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Lorsque la foule se rendit compte que le message de Paul était simplement religieux et n'était pas nouveau, elle le rejeta. C'est emblématique de notre époque, où les vérités de l'Évangile sont souvent rejetées ou déformées pour les rendre intellectuellement plus attirantes ou compatibles avec les tendances culturelles et les philosophies intellectuelles du moment. Si nous n'y faisons pas attention, nous pouvons être happés par ces tendances et nous mettre en servitude intellectuelle. Il y a de nombreuses voix en ce moment qui disent aux femmes comment vivre. Elles se contredisent souvent. Ce qui est particulièrement préoccupant, ce sont les philosophies qui critiquent ou diminuent le respect pour les femmes qui choisissent de faire les sacrifices nécessaires pour être des mères, des instructrices, des éducatrices ou des amies pour les enfants. Il y a quelques mois, nos deux plus jeunes petites filles nous ont rendu visite, une chaque semaine. J'étais chez moi et j'ai ouvert la porte. Marie, ma femme, était dans une autre pièce. Les deux fois, après m'avoir embrassée, elles ont dit pratiquement la même chose. Elles ont jeté un coup d'œil circulaire, puis ont dit « J'adore être chez grand-mère. Où est-elle ?» Je ne le leur ai pas dit, mais je me disais « N'est-ce pas aussi chez grand-père ?» Mais je me suis rendu compte que quand j'étais enfant, notre famille allait chez grand-mère. Les paroles d'une chanson connue me sont revenues à l'esprit. « Par-dessus la rivière et à travers bois, nous allons chez grand-mère. » Je tiens ici à dire clairement que je suis ravi des occasions qui sont données aux femmes de faire des études et d'autres choses. Je chéris le fait que le travail physiquement éreintant et les corvées domestiques imposées aux femmes ont été diminuées dans une grande partie du monde grâce au confort moderne et que les femmes apportent de telles contributions dans tous les domaines. Mais si nous laissons notre culture minimiser les relations spéciales que les enfants ont avec leur mère, leur grand-mère et les autres personnes qui les élèvent, nous le regretterons. Quatrièmement, les forces qui bafouent les principes religieux auxquels on croit sincèrement peuvent déboucher sur un asservissement. L'une des formes les plus déplaisantes consiste à forcer des personnes fidèles qui se sentent responsables devant Dieu de leur comportement à agir en contradiction avec leur conscience. Par exemple, le personnel médical que l'on force à choisir entre participer à des avortements contre leur conscience ou perdre leur emploi. L'Église constitue une minorité relativement petite, même lorsqu'elle est reliée à des gens qui pensent comme elle. Il sera difficile de changer la société dans son ensemble, mais nous devons nous efforcer d'améliorer la culture morale qui nous entoure. Les saints des derniers jours de chaque pays doivent être de bons citoyens, participer à la vie publique, se tenir au courant des problèmes et voter. Cependant, notre priorité doit toujours être de faire les sacrifices nécessaires pour protéger notre famille et la génération montante. La grande majorité des jeunes ne sont pas encore asservis à des dépendances graves ou à des idéologies fausses. Nous devons aider à les vacciner contre un monde qui ressemble beaucoup à la Jérusalem que Léhi et Jérémie ont connue. De plus, nous devons les préparer à contracter et respecter des alliances sacrées et à être les principaux émissaires pour aider le Seigneur à établir son Église et à rassembler Israël dispersé et les élus du Seigneur où qu'ils se trouvent. Comme il est dit dans les Doctrines et Alliances, les justes seront rassemblés d'entre toutes les nations et viendront en Sion avec des chants de joie éternelle. Notre défi consiste à éviter toute forme de servitude, à aider le Seigneur à rassembler ses élus et à faire des sacrifices pour la génération montante. Nous devons toujours nous souvenir que nous ne nous sauvons pas nous-mêmes. Nous sommes libérés par l'amour, la grâce et le sacrifice expiatoire du Sauveur. Lorsque la famille de Léhi s'est enfuie, elle a été guidée par la lumière du Seigneur. Si nous sommes fidèles à sa lumière, respectons ses commandements et nous reposons sur ses mérites, nous éviterons la servitude spirituelle, physique et intellectuelle, ainsi que le fait d'en être réduit à nous lamenter, de devoir errer dans notre propre désert, car le Christ est puissant à sauver. Évitons le désespoir et la douleur de ceux qui se trouvent en captivité et ne peuvent plus supporter de chanter les cantiques de Sion. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Pendant la réunion de Sainte-Seine, alors que les enfants chantaient joyeusement ces mots d'amour, tout le monde souriait avec approbation. Une mère courageuse élevant 5 enfants écoutait attentivement le 2e couplet. « Dans mon foyer, par la prêtrise, un coin des cieux se réalise. » Elle pensait tristement « Mes enfants n'ont jamais connu un tel foyer. » Mon message à cette femme fidèle et à chacun de nous est que nous pouvons recevoir à tout moment les bienfaits de la force du pouvoir de la prêtrise, quelle que soit notre situation. Parfois, nous associons exagérément le pouvoir de la prêtrise aux hommes de l'Église. La prêtrise est le pouvoir et l'autorité de Dieu conférés pour le salut et le bien de tous, hommes, femmes et enfants. Un homme peut ouvrir les rideaux afin que les rayons chauds du soleil entrent dans la pièce, mais il ne possède pas le soleil ou la lumière ou la chaleur qu'il apporte. Les bénédictions de la prêtrise sont infiniment plus grandes que celui à qui l'on demande d'administrer le don. Recevoir les bénédictions, le pouvoir et les promesses de la prêtrise dans cette vie et dans la suivante est une des grandes possibilités et une des grandes responsabilités de la condition mortelle. Lorsque nous sommes dignes, les ordonnances de la prêtrise enrichissent notre vie sur terre et nous préparent aux promesses magnifiques du monde à venir. Le Seigneur a dit « Le pouvoir de la divinité se manifeste dans ses ordonnances ». Il y a des bénédictions spéciales de Dieu pour toutes les personnes dignes qui sont baptisées, reçoivent le Saint-Esprit et prennent régulièrement la Sainte Cène. Le Temple apporte davantage de lumière et de force, ainsi que la promesse de la vie éternelle. Ces bénédictions deviennent plus nombreuses quand nous respectons les commandements et que nous augmentons notre foi en Jésus-Christ. Toutes les ordonnances nous invitent à faire grandir notre foi en Jésus-Christ et à contracter des alliances avec Dieu et à les respecter. En respectant ces alliances sacrées, nous recevons le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise. Ne ressentons-nous pas ce pouvoir de la prêtrise dans notre vie personnelle et ne le voyons-nous pas parmi les membres de l'Église qui respectent leurs alliances? Nous le voyons chez le nouveau converti, lorsqu'il sort des eaux du baptême, se sentant pardonné et purifié. Nous voyons nos enfants et nos jeunes plus sensibles à l'inspiration et à la direction du Saint-Esprit. Nous voyons les ordonnances du Temple devenir un symbole de force et de lumière pour les hommes et les femmes justes du monde entier. Le mois passé, j'ai vu un jeune couple puiser une force immense dans les promesses du scellement du Temple, alors que leur précieux fils, nouveau-né, n'a vécu qu'une semaine. Grâce aux ordonnances de la prêtrise, nous recevons le réconfort, la force, la perspective, la protection, la paix et des promesses éternelles. Certains peuvent sincèrement poser la question, si le pouvoir et les bénédictions de la prêtrise sont accessibles à tous, pourquoi les ordonnances de la prêtrise sont-elles administrées par les hommes? Quand un ange a demandé à Néphi, « Connais-tu la condescendance de Dieu ?» Néphi a répondu honnêtement, « Je sais qu'il aime ses enfants. Néanmoins, je ne connais pas la signification de tout. » Quand nous parlons de la prêtrise, il y a beaucoup de choses que nous savons. Nous savons que Dieu aime tous ses enfants et ne fait point exception de personne. Il ne repousse aucun de ceux qui viennent à lui, hommes ou femmes, et tous sont pareils pour Dieu. De même que nous savons que l'amour de Dieu est le même pour ses fils et ses filles, nous savons aussi qu'il n'a pas créé les hommes et les femmes exactement pareils. Nous savons que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle à la fois de notre identité et de notre raison d'être mortelle et éternelle. Des responsabilités sacrées sont données à chaque sexe. Nous savons que dès le début, le Seigneur a établi la façon dont la prêtrise serait administrée. La prêtrise a été donnée en premier lieu à Adam. Noé, Abraham et Moïse ont tous administré les ordonnances de la prêtrise. Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur. Il a appelé des apôtres. Il a dit, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi. » À notre époque, Jean-Baptiste, Pierre, Jacques et Jean ont rétabli la prêtrise sur la terre par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète. C'est la façon dont notre Père Céleste a administré sa prêtrise. Nous savons que le pouvoir de la Sainte Prêtrise n'agit pas indépendamment de la foi, du Saint-Esprit et des dons spirituels. Le prophète Moroni a dit « Ne niez pas les dons de Dieu, car ils sont nombreux, et ces dons sont conférés de différentes façons, mais c'est le même Dieu qui les opère tous. » Nous savons que la dignité sera toujours essentielle pour l'accomplissement et la réception des ordonnances de la prêtrise. Linda K. Burton a dit « C'est la justice qui nous qualifie pour inviter le pouvoir de la prêtrise dans notre vie. » Par exemple, pensez au fléau de la pornographie qui déferle sur le monde. Les normes de dignité du Seigneur ne laissent aucune place à la pornographie parmi les frères qui officient dans les ordonnances de la prêtrise. Le Sauveur a déclaré « Repentez-vous de vos abominations secrètes. L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le fait de préparer, bénir ou distribuer la Sainte Cène, de bénir les malades ou de participer à d'autres ordonnances de la prêtrise en étant indigne, revient, comme l'a dit David Abednar, à prendre le nom de Dieu en vain. Si un frère est indigne, il doit se retirer et ne pas officier dans les ordonnances de la prêtrise et, dans la prière, aller trouver son évêque comme première étape du repentir et du retour à l'observance des commandements. Nous savons que les bénédictions de la prêtrise sont abondantes là où une mère et un père juste sont unis pour guider leurs enfants. Mais nous savons aussi que Dieu s'empresse d'offrir ces mêmes bénédictions aux personnes qui sont dans de nombreuses autres situations. Une mère qui porte le poids de subvenir à la fois spirituellement et temporellement aux besoins de sa famille explique avec sensibilité qu'appeler ses instructeurs au foyer pour bénir un de ses enfants exige de l'humilité de sa part. Mais elle ajoute pertinemment que cela n'exige pas plus d'humilité de sa part que celle de ses instructeurs au foyer lorsqu'il se prépare à bénir son enfant. Nous savons que les clés de la prêtrise, détenues par les membres de la première présidence et du collège des 12 apôtres, dirigent l'œuvre du Seigneur sur la terre. Des clés particulières de la prêtrise sont conférées aux présidents de pieux et aux évêques pour leurs responsabilités géographiques. Ils appellent par révélation des hommes et des femmes qui sont soutenus et mis à part pour exercer l'autorité déléguée d'enseigner et d'officier dans l'Église. Il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas sur la prêtrise, et le fait de regarder à travers le prisme de la condition mortelle ne nous donne pas toujours la compréhension complète de la manière dont Dieu agit. Mais son rappel bienveillant, « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix », nous redonne l'assurance qu'avec le temps et une perspective éternelle, nous verrons les choses telles qu'elles sont réellement, et comprendront son amour parfait. C'est quelque chose que j'ai appris. Au début de mon mariage, Cathy et moi vivions en Floride. Un dimanche, un conseiller dans la présidence de pieux m'a expliqué qu'il sentait d'appeler Cathy comme instructrice du séminaire matinal. J'ai demandé « Comment allons-nous y arriver ? Nous avons de jeunes enfants. Le séminaire commence à 5 heures du matin et je suis le président des jeunes gens de la paroisse. Le conseiller a souri et dit « Tout ira bien. Nous allons l'appeler et vous relever. » Et c'est ce qui s'est passé. Il est essentiel dans la vie, le mariage et dans l'édification du royaume de Dieu de demander et d'écouter sincèrement les pensées et les préoccupations exprimées par les femmes. Il y a 20 ans, au cours de la conférence générale, M. Russell Ballard a rapporté une conversation qu'il avait eue avec la présidente générale de la société de secours. Il était question de renforcer la dignité des jeunes qui se préparaient à faire une mission. Hélène Jacques a dit avec un sourire, « Vous savez, frère Ballard, les femmes de l'Église pourraient avoir de bonnes idées si on leur pose la question. Après tout, c'est nous, leur mère. » Sa vie durant, le président Monson a demandé aux femmes quelles étaient leurs préoccupations et y a répondu. La femme qui l'a le plus influencée est Frances Monson. Elle nous manque beaucoup. Le président Monson a aussi rappelé le mois dernier encore aux autorités générales combien il a appris des 84 veuves de sa paroisse. Elles ont grandement influencé son service comme évêque et sa vie entière. Il n'est pas surprenant qu'avant la décision qu'a prise le président Monson dans la prière concernant le changement d'âge pour le service missionnaire, il y ait eu de nombreuses discussions avec les présidents généraux de la société de secours, des jeunes filles et de la primaire. Évêque, en suivant l'exemple du président Monson, vous sentirez encore plus abondamment la main du Seigneur vous guider et bénir l'œuvre sacrée que vous accomplissez. Nous avons vécu plusieurs années au Brésil. Peu de temps après notre arrivée, j'ai rencontré Adelson Parella, qui était membre des 70, et son frère Adilson, qui faisait partie de notre présidence de pieux. Plus tard, j'ai rencontré le frère Adalton, qui était président de pieux à Florianopolis, et à notre frère, Adelmo, qui était évêque. J'ai été impressionné par la foi de ses frères et je leur ai posé des questions sur leurs parents. La famille a été baptisée à Santo, au Brésil, il y a 42 ans. Adilson Parella nous a raconté, « Au début, notre père semblait très enthousiaste de se joindre à l'Église, mais au bout de peu de temps, il est devenu non pratiquant et a demandé à notre mère de ne pas aller à l'Église. » Adilson m'a dit que sa mère faisait des travaux de couture pour les voisins afin de payer le bus pour que ses enfants aillent à l'église. Les quatre petits garçons faisaient près de 2 kilomètres à pied jusqu'à une autre localité, prenaient le bus pendant 45 minutes, puis marchaient encore 20 minutes jusqu'à l'église. Bien que ne pouvant pas se rendre à l'église avec ses enfants, Sœur Parella lisait les Écritures avec ses fils et ses filles, leur enseignait l'Évangile et priait avec eux. Leur humble foyer était rempli des grandes bénédictions du pouvoir de la prêtrise. Les petits garçons ont grandi, ont fait une mission, des études et se sont mariés au temple. Les bénédictions de la prêtrise ont rempli leur foyer. Des années plus tard, alors sœur seule, Vani de Paula Parella est entrée dans le temple pour recevoir sa dotation personnelle et par la suite a fait 3 missions au Brésil. Maintenant, à 84 ans, elle continue, par sa foi, de faire du bien aux générations qui la suivent. Le pouvoir de la Sainte Prêtrise de Dieu se trouve dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Lorsque vous participez dignement aux ordonnances de la Prêtrise, le Seigneur vous donne davantage de force, de paix, et une plus grande perspective éternelle. Quelle que soit votre situation, votre foyer recevra les bienfaits de la force du pouvoir de la prêtrise, et vos proches désireront davantage ces bénédictions pour eux-mêmes. Nous, hommes et femmes, frères et sœurs, fils et filles de Dieu, avançons ensemble. C'est notre chance, notre responsabilité, et notre bénédiction. C'est notre destinée, de préparer le royaume de Dieu pour le retour du Sauveur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Nous sommes reconnaissants au-delà de ce que nous pouvons exprimer pour les instructeurs partout dans l'Église. Nous vous aimons et avons une grande confiance en vous. Vous êtes l'un des plus grands miracles de l'Évangile rétabli. Il y a effectivement un secret pour devenir un bon instructeur de l'Évangile, pour enseigner avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. J'utilise le mot « secret » parce que les principes sur lesquels repose la réussite d'un instructeur ne peuvent être compris que par les personnes qui ont un témoignage de ce qui a eu lieu le matin d'une belle et claire journée du début de printemps de 1820. En réponse à l'humble prière d'un garçon de 14 ans, les cieux se sont ouverts. Dieu le Père éternel et son Fils Jésus-Christ sont apparus et ont parlé à Joseph Smith, le prophète. Le rétablissement tant attendu de toutes choses avait commencé, et le principe de la révélation était éternellement établi dans notre dispensation. Le message de Joseph et notre message au monde peut être résumé en deux mots. Dieu parle. Il a parlé autrefois, il a parlé à Joseph, et il vous parlera. C'est ce qui vous met à part de tous les autres instructeurs du monde. C'est pour cela que vous ne pouvez pas échouer. Vous avez été appelé par l'esprit de prophétie et de révélation, et vous avez été mis à part par l'autorité de la prêtrise. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement, cela signifie que vous êtes au service du Seigneur. Vous êtes son agent, et vous avez l'autorité et la mission de le représenter et d'agir en son nom. En tant qu'agent, vous avez droit à son aide. Vous devez vous demander, qu'est-ce que le Seigneur dirait s'il donnait mon cours aujourd'hui? Et comment le dirait-il? Vous devez ensuite faire de même. Cette responsabilité peut en amener certains à ne pas se sentir à la hauteur ou à avoir un peu peur. Le chemin n'est pas difficile. Le Seigneur a fourni à tous les saints des derniers jours, dignes, le moyen d'enseigner à la manière du Sauveur. Deuxièmement, vous êtes appelé à prêcher l'Évangile de Jésus-Christ. Vous ne devez pas enseigner vos propres idées ou philosophies, même mêlées d'Écriture. L'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut, et nous ne sommes sauvés que grâce à l'Évangile. Il vous est commandé, troisièmement, d'enseigner les principes de l'Évangile tels qu'ils sont énoncés dans les ouvrages canoniques de l'Évangile, d'enseigner les paroles des apôtres et des prophètes actuels et d'enseigner ce que le Saint-Esprit vous enseigne. Alors, par où commencer? Notre toute première responsabilité est de vivre de façon à pouvoir avoir le Saint-Esprit comme guide et compagnon. Quand Hiram Smith chercha à s'engager dans cette œuvre des derniers jours, le Seigneur lui dit, « Voici ton œuvre, c'est de garder mes commandements, oui, de tout ton pouvoir, de tout ton esprit et de toute ta force. » C'est le point de départ. Ce conseil donné à Hiram par le Seigneur est le même qu'il a donné aux saints à toutes les époques. S'adressant aujourd'hui aux instructeurs, la première présidence a déclaré, la partie la plus importante de votre service sera votre propre préparation spirituelle quotidienne, notamment la prière, l'étude des Écritures et l'obéissance aux commandements. Nous vous recommandons de vous consacrer à vivre l'Évangile avec plus de ferveur que jamais auparavant. Fin de citation. Il est révélateur que la première présidence n'ait pas dit que la partie la plus importante de votre responsabilité est de bien préparer vos leçons ou de maîtriser les diverses techniques d'enseignement. Bien sûr, vous devez diligemment préparer chaque leçon et vous efforcer d'apprendre comment enseigner pour pouvoir aider vos élèves à utiliser leur libre arbitre et permettre à l'Évangile de pénétrer dans leur cœur. Mais la première partie de votre service est la plus importante. C'est votre propre préparation spirituelle. Voici ce que la première présidence a promis si vous suiviez ce conseil. Le Saint-Esprit vous aidera à savoir quoi faire. Votre propre témoignage grandira, votre conversion s'approfondira et vous serez fortifié pour affronter les difficultés de la vie. Fin de citation. Quelle bénédiction plus grande un instructeur peut-il désirer? Ensuite, le Seigneur a commandé qu'avant de chercher à annoncer sa parole, nous devons chercher à l'obtenir. Nous devons être des hommes et des femmes d'une saine intelligence en sondant diligemment les Écritures et en les chérissant dans notre cœur. Alors, lorsque vous demanderez de l'aide au Seigneur, il vous accordera son esprit et sa parole. Vous aurez la puissance de Dieu pour convaincre les hommes. Paul nous dit que l'Évangile vient aux hommes de deux manières, en parole et avec puissance. La parole de l'Évangile est donnée dans les Écritures et nous pouvons l'obtenir en la cherchant diligemment. La puissance de l'Évangile pénètre dans la vie des gens qui vivent de manière à ce que le Saint-Esprit soit leur compagnon et qui suivent l'inspiration qu'ils reçoivent. Certains ne concentrent leur attention que sur l'obtention de la parole, et ils deviennent des experts à transmettre des informations. D'autres négligent leur préparation et espèrent que le Seigneur les aidera, d'une manière ou d'une autre, à se tirer d'affaire pendant le cours. Vous ne pouvez pas attendre à ce que l'Esprit vous aide à vous souvenir des Écritures et des principes que vous n'avez pas étudiés ou auxquels vous n'avez pas réfléchi. Pour pouvoir bien enseigner l'Évangile, vous devez avoir à la fois la parole et la puissance de l'Évangile dans votre vie. Alma comprenait ces principes quand il parla des fils de Mosia et décrivit comment ils enseignaient avec la puissance et l'autorité de Dieu. Il a dit, « Ils étaient des hommes d'une saine intelligence et ils avaient sondé diligemment les Écritures afin de connaître la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ils s'étaient beaucoup livrés à la prière et au jeûne. C'est pourquoi ils avaient l'esprit de révélation. » Fin de citation. Ensuite, vous devez apprendre à écouter. Frère Holland a enseigné ce principe aux missionnaires. Ce qu'il a dit s'applique à tous les instructeurs. Je vais citer les paroles de frère Holland, mais j'ai pris la liberté de respectivement remplacer les termes missionnaire et ami de l'Église par instructeur et élève. Citation. Ils ont non seulement la responsabilité d'écouter l'Esprit, mais aussi celle d'écouter les élèves. Si nous voulons bien écouter avec des oreilles spirituelles, nos élèves nous diront quelles leçons ils ont besoin d'entendre. Frère Holland poursuit. Le fait est que les instructeurs s'emploient encore trop à donner une matière confortable, toujours la même, plutôt que de se concentrer sur leurs élèves en tant que personnes. Fin de citation. Après vous être préparé et avoir préparé vos leçons au mieux de vos capacités, vous devez être disposé à vous laisser guider. Lorsque l'inspiration discrète vous est donnée, vous devez avoir le courage de mettre de côté vos plans et vos notes et aller là où cette inspiration vous conduit. Lorsque vous agissez ainsi, la leçon que vous donnez n'est plus la vôtre, mais elle devient celle du Sauveur. Consacrez-vous à vivre l'Évangile plus résolument que jamais auparavant et sondez les Écritures en les amassant dans votre cœur. Et le même Saint-Esprit qui a révélé ses paroles aux apôtres et aux prophètes dans les temps anciens vous témoignera de leur véracité. Surtout, le Saint-Esprit vous les révélera de nouveau. Quand cela se produit, les paroles que vous lisez ne sont plus seulement celles de Néphi, de Paul ou d'Alma, mais elles deviennent les vôtres. Puis, pendant que vous enseignez, le Saint-Esprit pourra vous apprendre toutes choses et vous rappellera tout. En effet, ce que vous devrez dire vous sera donné sur l'heure, oui, au moment même. Quand cela arrivera, vous vous surprendrez à dire quelque chose que vous n'aviez pas projeté de dire. Puis, si vous prêtez attention, vous apprendrez quelque chose de ce que vous dites lorsque vous enseignez. Président Marion G. Romney a dit, « Je sais toujours quand je parle sous l'inspiration du Saint-Esprit, car alors ce que j'ai dit m'apprend toujours quelque chose. » Fin de citation. Souvenez-vous, un instructeur doit être un témoin indépendant des choses qu'il enseigne, et pas seulement l'écho du texte d'un manuel ou des pensées d'autrui. Si vous vous faites un festin des paroles du Christ et vous efforcez de vivre l'Évangile plus résolument que jamais, le Saint-Esprit vous manifestera que ce que vous enseignez est vrai. Et ce même Esprit, qui est l'Esprit de révélation, portera votre message dans le cœur des gens qui désirent le recevoir et sont disposés à le faire. Finissons maintenant là où nous avons commencé, dans le bosquet sacré. Du fait de ce qui s'est passé en ce beau matin, il n'y a pas si longtemps, vous avez le droit d'enseigner avec le pouvoir et l'autorité de Dieu. J'en rends mon témoignage solennel et indépendant au nom de Jésus-Christ. Amen.
Le chœur et l'assemblée vont maintenant se lever et chanter, appelés à servir. Après ce cantique, nous entendrons Kevin S. Hamilton, Adrian Ochoa et Terence M. Vinson, des 70. Ils seront suivis de Russell M. Nelson, du Collège des 12 apôtres.
This is the 183rd semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
My father could remember the very day.
Mon père se souvenait du jour précis, de l'heure précise même, où sa famille, son père, sa mère et leurs quatre enfants avaient quitté l'église. beaucoup d'entre eux pour ne jamais y revenir dans cette vie. Il avait 13 ans, il était diacre, et à cette époque, les familles allaient à l'école du dimanche le matin, puis à la réunion de Sainte-Seine l'après-midi. Un beau jour de printemps, une fois la famille rentrée des réunions du dimanche matin et après le repas du midi, sa mère s'est tournée vers son père et lui a demandé simplement « Chérie, penses-tu que nous devrions aller à la réunion de Sainte-Seine cet après-midi ou devrions-nous emmener les enfants faire un tour en voiture dans la campagne ?» L'idée qu'il y ait une autre option, que la réunion de Sainte-Seine n'était jamais venue à l'esprit de mon père, mais ses trois adolescents et lui se sont redressés et ont écouté attentivement. Cette promenade dominicale dans la campagne était probablement une activité familiale agréable, mais cette petite décision devint le départ d'une nouvelle direction qui a fini par éloigner sa famille de l'Église, de sa sécurité, de ses bénédictions, et l'a amené à suivre un chemin différent. Comme leçon aux personnes de notre époque qui pourraient être tentées de choisir un chemin différent, Léhi, le prophète du livre de Mormon, raconta une vision à sa famille dans laquelle il vit d'innombrables multitudes de gens dont beaucoup marchaient résolument afin de parvenir au sentier qui menait à l'arbre à côté duquel ils se tenaient. Il poursuivit et ils s'avancèrent et s'engagèrent dans le sentier qui menait à l'arbre. Et il s'éleva un brouillard de ténèbres au point que ceux qui s'étaient engagés dans le sentier perdirent leur chemin, de sorte qu'ils s'éloignèrent et se perdirent. Léhi vit ensuite un deuxième groupe de gens qui marchaient résolument. Ils s'avancèrent et se saisirent de l'extrémité de la barre de fer, et ils marchèrent résolument au travers du brouillard de ténèbres, s'agrippant à la barre de fer jusqu'à s'avancer et manger du fruit de l'arbre. Malheureusement, lorsqu'ils eurent mangé du fruit de l'arbre, ils jetèrent les regards autour d'eux comme s'ils étaient honteux. À cause des personnes qui se trouvaient dans un grand et spacieux édifice et qui paraissaient se moquer et montrer du doigt ceux qui étaient venus manger du fruit, alors ces personnes tombèrent dans des sentiers interdits et se perdirent. Elles furent incapables, ou peut-être ne voulurent pas, persévérer jusqu'à la fin. Cependant, il y eut un troisième groupe qui non seulement réussit à atteindre l'arbre de vie, mais qui ne s'éloigna pas par la suite. Les Écritures disent de ces personnes qu'elles allaient résolument de l'avant, se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer, jusqu'à s'avancer, se laisser choir et manger du fruit de l'arbre. La barre de fer représentait pour ce groupe de gens la seule sécurité qu'ils pouvaient trouver, et ils s'y tinrent continuellement avec fermeté. Ils refusèrent de la lâcher, même pour quelque chose aussi simple qu'une promenade un dimanche après-midi à la campagne. Concernant ce groupe, David Abednar a enseigné. L'expression clé de ce verset est « se tenant continuellement avec fermeté à la barre de fer ». Ce troisième groupe a peut-être lu et étudié et sondé les paroles du Christ de manière régulière. C'est le groupe que vous et moi devons nous efforcer de rejoindre. Fin de citation. Ceux d'entre nous qui sont membres de l'Église de Dieu aujourd'hui ont fait alliance de suivre Jésus-Christ et d'obéir aux commandements de Dieu. Lors de notre baptême, nous avons fait alliance d'être les témoins du Sauveur, d'aller au secours des faibles et des nécessiteux, de respecter les commandements de Dieu et de nous repentir lorsque nous en avons besoin, car comme l'apôtre Paul l'a enseigné, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Chaque semaine, nous avons l'occasion d'assister à une réunion de Sainte-Seine, où nous pouvons renouveler ces alliances en prenant le pain et l'eau de l'ordonnance de la Sainte-Seine. Cet acte simple nous permet de nous engager une nouvelle fois à suivre Jésus-Christ et de nous repentir quand nous ne sommes pas à la hauteur. Dieu nous promet en retour de nous accorder son esprit pour nous guider et nous protéger. D'après Prêcher mon Évangile, nos missionnaires enseignent que la révélation et le témoignage viennent quand nous assistons à nos réunions dominicales de l'Église. Je cite, « En allant aux offices religieux de l'Église et en adorant Dieu ensemble, nous nous fortifions mutuellement. Le fait de fréquenter nos amis et notre famille nous ressource, notre foi est renouvelée par notre étude des Écritures et de l'Évangile rétabli. » Fin de citation. On peut se demander pourquoi y a-t-il trois réunions distinctes le dimanche et pourquoi est-il nécessaire d'assister à chacune. Examinons brièvement ces trois réunions. La réunion de Sainte-Seine donne l'occasion de participer à l'ordonnance de la Sainte-Seine. Nous renouvelons nos alliances, nous recevons une mesure supplémentaire de l'Esprit et nous avons en plus la bénédiction d'être instruits et édifiés par le Saint-Esprit. L'école du dimanche permet de nous enseigner les uns aux autres la doctrine du royaume, afin que tous soient édifiés et se réjouissent ensemble. Un grand pouvoir et la paix personnelle nous sont donnés quand nous comprenons la doctrine de l'Évangile rétabli. Les réunions de la prêtrise permettent aux hommes et aux jeunes gens de s'instruire de leurs devoirs et d'être instruits plus parfaitement. Et la réunion de la société de secours donne aux femmes de l'Église la possibilité d'accroître leur foi, de fortifier leur famille et leur foyer et d'aider les personnes dans le besoin. De la même façon, nos jeunes filles et les enfants ont leurs propres réunions et classes dans lesquelles l'Évangile leur est enseigné pour les préparer aux responsabilités importantes qui les attendent. Dans chacune de ces réunions uniques, mais en lien les unes avec les autres, nous apprenons la doctrine, nous ressentons l'Esprit et nous nous servons mutuellement. Il peut y avoir des exceptions dues à la distance, au coût des trajets ou à l'état de santé, mais nous devons nous efforcer d'assister à toutes nos réunions dominicales. Je vous promets que nous recevrons une grande joie et la paix si nous adorons Dieu pendant les 3 heures de nos réunions du dimanche. Notre famille s'est engagée à toujours assister à toutes ces réunions dominicales. Nous avons remarqué que cela fortifie notre foi et approfondit notre compréhension de l'Évangile. Nous nous sommes aperçus que notre décision d'assister à nos réunions du dimanche nous procure un bon sentiment, particulièrement quand nous rentrons chez nous et que nous continuons à observer le sabbat. Nous assistons même à toutes nos réunions dominicales quand nous sommes en vacances ou en voyage. Récemment, l'une de nos filles nous a écrit pour dire qu'elle était allée à l'église dans une ville où elle était en voyage. Puis elle a ajouté « Oui, papa, je suis allée aux 3 réunions ». Nous savons que cette décision juste lui a apporté des bénédictions. Nous devons tous faire de nombreux choix concernant notre façon d'observer le jour du sabbat. Il y aura toujours quelques bonnes activités qui peut et doit être sacrifiée en faveur du meilleur choix qui consiste à assister aux réunions de l'église. C'est en fait une des façons dont l'adversaire trompe notre âme et nous entraîne soigneusement sur la pente de l'enfer. Il utilise de bonnes activités comme substitut à des activités meilleures ou même encore meilleures. Nous tenir continuellement avec fermeté à la barre signifie que nous assistons à toutes nos réunions du dimanche, la réunion de Sainte-Seine, l'école du dimanche et les réunions de la prêtrise et de la société de secours. Nos enfants et nos adolescents assistent à leurs réunions respectives à la primaire, aux jeunes gens et aux jeunes filles. Nous ne devons jamais sélectionner les réunions auxquelles nous allons assister. Nous nous tenons simplement avec fermeté à la parole de Dieu en assistant à toutes les réunions du jour du sabbat qui sont proposées. Nous tenir continuellement avec fermeté à la barre signifie que nous nous efforçons de respecter tous les commandements de Dieu, de faire quotidiennement nos prières personnelles et familiales et d'étudier les Écritures chaque jour. Se tenir continuellement avec fermeté fait partie de la doctrine du Christ qui est enseignée dans le livre de Mormon. Nous faisons preuve de foi en Jésus-Christ, nous nous repentons de nos péchés et nous changeons notre cœur. Puis nous le suivons dans les eaux du baptême et nous recevons le don de confirmation du Saint-Esprit qui est pour nous un guide et un consolateur. Puis, comme Néphi l'a enseigné, nous marchons résolument, nous faisant un festin de la parole du Christ jusqu'à la toute fin de notre vie. Mes frères et sœurs, nous sommes un peuple d'alliance. Nous contractons et respectons volontairement des alliances et la bénédiction promise est que nous recevrons tout ce que le Père a. Si nous continuons à tenir la barre avec fermeté en respectant nos alliances, la force nous sera donnée de résister aux tentations et aux périls du monde. Nous pourrons naviguer dans la condition mortelle avec toutes les épreuves qu'elle comporte jusqu'à ce que nous atteignions réellement l'arbre portant le fruit le plus précieux et le plus désirable par-dessus tous les autres. Mon père a eu la chance d'épouser une femme juste qui l'a incité à revenir à l'église de son enfance et à recommencer à progresser sur le chemin. Leur vie de fidélité a béni tous leurs enfants, la génération suivante de petits-enfants et maintenant leur arrière-petits-enfants. De la même façon que la décision simple d'assister ou de ne pas assister aux réunions de culte du jour du sabbat a fait une différence importante dans la vie de la famille de mes grands-parents, de même, nos décisions quotidiennes influencent notre vie de façon importante. Une décision apparemment anodine, telle que celle d'assister ou pas à une réunion de Sainte-Seine, peut avoir des conséquences à long terme, même éternelles. Puissions-nous choisir d'être diligents et de recevoir les grandes bénédictions et protections qui résultent du fait de nous réunir et de respecter nos alliances. Puissions-nous continuellement nous tenir avec fermeté à la barre de fer qui conduit en la présence de notre Père Céleste. C'est ma prière au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Quand j'avais 8 ans, deux cousins et moi avons été envoyés à une ville voisine chercher des provisions pour les 2 semaines suivantes, pour les 10 personnes que comptait notre famille. En y repensant, je suis stupéfait de la grande confiance que ma grand-mère, ma tante et mon oncle avaient en nous. Le ciel matinal était lumineux et ensoleillé quand nous sommes montés sur nos 3 chevaux et avons entrepris notre trajet de 16 kilomètres. Au milieu de la prairie, nous avons eu l'idée lumineuse de descendre de cheval et de jouer aux billes. Nous étions si absorbés par notre jeu que nous n'avons pas vu les signes des temps au-dessus de notre tête quand des nuages noirs ont couvert le ciel. Quand nous nous sommes rendus compte de ce qui se passait, nous n'avons même pas eu le temps de monter sur nos chevaux. La forte pluie et la grêle nous ont frappés si fort que tout ce à quoi nous avons pu penser a été de desseller les chevaux et de nous abriter sous les petits tapis de sel. Sans chevaux, mouillés et transis de froid, nous avons continué notre route, essayant maintenant d'avancer aussi vite que possible. En approchant de notre destination, nous avons vu que la large rue qui entrait dans la ville était inondée et ressemblait à une rivière se dirigeant vers nous. À présent, la seule chose qui restait à faire était de laisser tomber nos tapis et de grimper sur la clôture en fil de fer barbelé qui entourait la ville. La nuit était bien avancée quand, fatigués, courbattus et trempés, nous avons cherché un abri dans la première maison que nous avons vue à l'entrée de la ville. La bonne jeune famille nous a séchés, nourris de délicieux burritos aux haricots, puis nous a mis au lit dans une chambre. Nous avons bientôt découvert que le sol de la pièce était en terre battue et nous avons eu une autre idée lumineuse. Nous avons tracé un cercle sur le sol et nous avons continué notre partie de billes jusqu'à ce que nous nous écroulions de fatigue par terre. Étant enfants, nous ne pensions qu'à nous-mêmes. Nous n'avons jamais pensé à nos proches, à la maison, qui nous cherchaient désespérément. Si nous l'avions fait, nous n'aurions jamais tardé de façon aussi insouciante. Et si nous avions été plus sages, nous aurions regardé le ciel, remarqué que des nuages se formaient, et nous aurions accéléré notre allure pour devancer l'orage. Maintenant que j'ai un peu plus d'expérience, je me dis toujours, n'oublie pas de lever les yeux. Mon expérience avec mes cousins m'a appris à faire attention aux signes des temps. Nous vivons à l'époque tumultueuse et périlleuse que Paul a décrite. Les hommes seront égoïstes, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, calomniateurs, intempérants, aimant les plaisirs plus que Dieu. Parlant de cette époque, Elder Dallin H. Oaks a dit, « Nous devons nous préparer matériellement et spirituellement, et la préparation que l'on néglige le plus est vraisemblablement la moins visible et la plus difficile, la préparation spirituelle. » En d'autres termes, ne négligez pas de lever les yeux. Étant donné le besoin urgent de préparation spirituelle à une époque si périlleuse, je veux mettre en garde contre un signe des temps très sérieux. Ma vie professionnelle, m'ayant placé à l'avant-garde de la technologie, je reconnais sa valeur, particulièrement dans le domaine de la communication. Tant d'informations se trouvent maintenant à notre portée. Mais l'Internet est aussi rempli de beaucoup de choses ordurières et trompeuses. La technologie a augmenté notre liberté de parole, mais elle donne aussi à un blogueur non qualifié une fausse crédibilité basée sur le nombre de personnes qui le suivent. C'est la raison pour laquelle, plus que jamais, nous devons nous rappeler ce principe éternel. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En particulier, je vous avertis de ne pas regarder d'images ordurières, ni de prêter attention aux faux accusateurs du Christ et du prophète Joseph Smith. Ces deux actions créent le même effet, la perte du Saint-Esprit et de son pouvoir protecteur et fortifiant. Le vice et le chagrin suivent. Mes chers frères et sœurs, si vous rencontrez un jour quelque chose qui vous amène à remettre en question votre témoignage de l'Évangile, je vous supplie de lever les yeux. Regardez vers la source de toute sagesse et de toute vérité. Nourrissez votre foi et votre témoignage de la parole de Dieu. Certaines personnes dans le monde cherchent à miner votre foi en mêlant des mensonges à des demi-vérités. C'est la raison pour laquelle il est absolument vital que vous restiez constamment digne de l'Esprit. La compagnie du Saint-Esprit n'est pas seulement une commodité agréable, elle est aussi essentielle à votre survie spirituelle. Si vous amassez précieusement les paroles du Christ et écoutez attentivement les murmures de l'Esprit, vous ne serez pas séduit. Jésus-Christ, qui était parfait, et Joseph Smith, qui reconnaissait ne pas l'être, ont tous deux été tués par de faux accusateurs qui ne voulaient pas accepter leur témoignage. Comment pouvons-nous savoir que leur témoignage est vrai, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et que Joseph Smith est un vrai prophète? C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Un bon fruit peut-il pousser sur un mauvais arbre? Je sais personnellement que mon Rédempteur a pardonné mes péchés et m'a libéré de mon joug personnel en m'amenant à un état de bonheur que je ne savais même pas exister. Et je sais personnellement que Joseph Smith était un prophète parce que j'ai appliqué la promesse simple contenue dans le livre de Mormon, demandez à Dieu, le Père éternel, au nom du Christ. En d'autres termes, levez les yeux. Certaines personnes diront peut-être qu'il faut avoir une preuve physique pour croire en la résurrection du Christ ou en la véracité de son évangile rétabli. À ces personnes, je cite les paroles d'Alma à Corior, qui essayait de persuader les autres de ne pas croire. Tu as eu assez de signes. Tenteras-tu ton Dieu? Diras-tu, montre-moi un signe, alors que tu as le témoignage de tous ceux-ci qui sont tes frères, et aussi de tous les saints prophètes. Les Écritures sont placées devant toi. Vous et moi sommes des preuves vivantes de la rédemption du Sauveur. Nous sommes une preuve vivante du ministère de Joseph Smith, le prophète, et de la fidélité des premiers saints dont le témoignage est resté fort. L'Église de Jésus-Christ s'est maintenant répandue dans le monde entier, et elle grandit comme jamais auparavant. Elle est acceptée, comme à l'époque du Christ, par des gens humbles qui n'ont pas besoin de voir et de toucher pour croire. Personne ne sait quand le Seigneur reviendra, mais nous vivons, à présent, à une époque périlleuse. Le moment est venu de lever les yeux vers la source de la vérité et de veiller à ce que notre témoignage soit fort, prêt pour les épreuves que nous devons certainement affronter. Pour revenir à mon récit le lendemain matin, mes cousins et moi nous sommes réveillés alors que le soleil brillait dans un beau ciel. Un homme a frappé à la porte à la recherche de trois garçons égarés. Il nous a mis à cheval et nous sommes rentrés en traversant la même prairie. Je n'oublierai jamais ce que nous avons vu sur le chemin du retour. Une multitude de gens qui nous avaient cherchés toute la nuit, leurs tracteurs et leurs camions enlisés dans la boue. Ils avaient retrouvé une selle ici et un cheval là. Et quand ils nous ont vus rentrer à la maison, j'ai ressenti leur soulagement et leur amour. À l'entrée de la ville, nos cousins sont accourus nous accueillir et devant eux tous se trouvaient ma grand-mère aimante et mes oncles et tantes. Ils nous ont serrés dans leurs bras et ils ont pleuré, submergés par la joie d'avoir retrouvé leurs enfants perdus. Quel formidable rappel c'est pour moi que notre Père céleste aimant se soucie de nous. Il attend impatiemment notre retour à la maison. Des signes annonciateurs de tempêtes se forment tout autour de nous. Levons les yeux et préparons-nous. Un témoignage fort nous assure la sécurité. Chaque jour, chérissons et fortifions notre témoignage. Je sais que nous pouvons vivre ensemble, en famille, pour l'éternité. Que notre Père céleste aimant nous attend, nous, ses enfants, les bras tendus. Je sais que Jésus-Christ, notre Sauveur, vit. Comme pour Pierre, ce n'est ni la chair ni le sang qui me l'ont révélé, mais mon Père qui est dans les cieux. Au nom sacré de Jésus-Christ, Amen.
Our six-year-old grandson, Ollie.
Ollie, notre petit-fils de 6 ans, qui m'appelle affectueusement Poppy, devait aller chercher quelque chose dans la voiture. Son père était dans la maison, et sans qu'Ollie ne s'en aperçoive, il a déverrouillé la porte de la voiture quand Ollie s'en est approché, puis l'a verrouillé quand il a eu terminé. Ollie est retourné à la maison avec un grand sourire. Toute la famille lui a demandé « Comment tu as fait pour que la voiture s'ouvre et se referme ?» Il n'a fait que sourire. Notre fille, sa mère, a dit « Peut-être que c'est comme quand Poppy le fait. Tu as peut-être des pouvoirs magiques comme lui. » Quand cela s'est produit une deuxième fois, quelques minutes plus tard, sa réponse aux questions sur son nouveau talent a été « C'est super. Je crois que c'est parce que Poppy m'aime, qu'il est un de mes meilleurs amis et qu'il prend soin de moi. » J'ai eu la bénédiction de voir se produire des choses vraiment miraculeuses dans la vie de Saint Fidèle en Afrique, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Océanie. Je suis d'accord avec Ollie. Je pense que c'est parce que ces personnes fidèles ont les mêmes sentiments pour notre Père Céleste et le Sauveur qu'Ollie envers moi. Ils aiment Dieu comme un ami proche et il prend soin d'eux. Les membres de cette Église ont le droit de recevoir un témoignage spirituel, et beaucoup en reçoivent un, et de contracter des alliances sacrées pour suivre le Seigneur. Pourtant, malgré cela, certains se rapprochent de lui et d'autres non. Dans quelle catégorie êtes-vous? Dieu devrait être au centre de notre univers, au centre de notre attention. L'est-il? Ou est-il parfois loin des pensées et intentions de notre cœur? Remarquez que ce ne sont pas juste les pensées de notre cœur qui sont importantes, mais aussi les intentions. De quelle façon notre comportement et nos actes reflètent-ils l'intégrité de nos intentions? Quand il avait 16 ans, Ben, notre fils, a pris la parole lors d'une conférence de pieux et a posé la question suivante. Comment vous sentiriez-vous si quelqu'un vous faisait une promesse chaque semaine et ne la tenait jamais? Il a continué. Prenons-nous au sérieux la promesse que nous faisons quand nous prenons la Sainte Cène et faisons alliance de respecter ses commandements et de toujours nous souvenir de lui? Le Seigneur nous a donné des moyens pour nous aider à nous souvenir de lui et de ses pouvoirs fortifiants. L'un de ces moyens est notre lot commun à tous, l'adversité. Quand je repense aux épreuves auxquelles j'ai fait face, il est clair qu'elles m'ont permis de progresser, d'augmenter ma compréhension et mon empathie. Elles m'ont rapproché de mon Père Céleste et de son Fils par des expériences et un affinage qui sont gravés dans mon cœur. Ces conseils et ces instructions sont essentiels. Il a aidé le frère fidèle de Jared à résoudre l'un de ses deux problèmes quand il lui a dit comment obtenir de l'air dans les barques qui avaient été construites avec fidélité. Mais il est à noter que non seulement le Seigneur a temporairement laissé le problème de savoir comment obtenir de la lumière non résolu, mais qu'il a ensuite aussi dit clairement que lui, le Seigneur, permettrait aux épreuves qui entraîneraient la nécessité de le résoudre d'arriver. C'est lui qui enverrait les vents, la pluie et les flots. Pourquoi ferait-il cela? Et pourquoi nous prévient-il de nous éloigner d'une source de danger quand il pourrait simplement empêcher le danger de se produire? Wilford Woodruff a raconté qu'il a été prévenu spirituellement de déplacer le chariot dans lequel sa femme, son enfant et lui dormaient, pour se rendre compte que, peu de temps après, une tornade a déraciné un grand arbre qui est tombé à l'endroit même où se trouvait précédemment le chariot. Dans ces deux exemples, la météo aurait pu être changée pour éliminer les dangers. Mais voilà toute la question. Plutôt que de résoudre le problème lui-même, le Seigneur veut que nous développions la foi qui nous aidera à nous appuyer sur lui pour résoudre nos problèmes et lui faire confiance. Alors, nous pouvons ressentir son amour avec plus de constance, avec plus de puissance, plus clairement et plus personnellement. Nous devenons un avec lui et nous pouvons devenir comme lui. Son objectif est que nous soyons comme lui. En fait, c'est son œuvre ainsi que sa gloire. Un jeune garçon essayait de déblayer et d'aplanir le sol en terre derrière sa maison pour y jouer avec ses voitures. Une grosse pierre contrariait son travail. Le garçon poussait et tirait de toutes ses forces, mais quelle que soit l'intensité de ses efforts, la pierre ne bougeait pas. Son père l'observait, puis au bout d'un certain temps vint lui dire « Tu dois utiliser toute ta force pour déplacer une pierre aussi grosse ». Le garçon répondit « J'ai utilisé toute ma force ». Son père rectifia « Non, tu n'as pas encore utilisé mon aide ». Ils s'accroupirent alors ensemble et déplacèrent facilement la pierre. Le père de mon ami, Vaibarom, premier président de Pieux de Papouasie-Nouvelle-Guinée, a aussi appris à se tourner vers son Père Céleste quand il en avait besoin. Les villageois et lui ne pouvaient survivre que grâce à leur récolte. Un jour, il a allumé un feu pour dégager sa parcelle des terres arables du village pour la cultiver. Cependant, il avait fait très chaud pendant longtemps et la végétation était très sèche. Son feu a alors pris de la même manière que celui du président Monson, comme notre prophète nous l'a lui-même décrit à la dernière conférence générale. Il a commencé à s'étendre jusqu'à la prairie et aux buissons. Et selon les paroles de son fils, il est devenu un feu monstrueux. Il a craint pour les autres villageois et la possible perte de leur récolte. Si elles étaient détruites, il serait soumis à la justice du village. Étant incapable d'éteindre le feu, il s'est alors souvenu du Seigneur. Je cite maintenant son fils, mon ami. Il s'est agenouillé dans les buissons sur la colline et a commencé à prier notre Père Céleste pour qu'il arrête le feu. Soudain, un gros nuage noir est apparu au-dessus de là où il priait et il s'est mis à pleuvoir très fort, mais uniquement là où il y avait le feu. Quand il a regardé aux alentours, il a vu que le ciel était dégagé partout, sauf là où les flammes brûlaient. Il ne pouvait pas croire que le Seigneur répondrait à un homme simple comme lui. Et il s'est agenouillé à nouveau et a pleuré comme un enfant. Il a dit qu'il a ressenti un sentiment extrêmement doux. Notre Sauveur veut que nous l'aimions vraiment, au point de désirer conformer notre volonté à la sienne. Nous pouvons alors ressentir son amour et connaître sa gloire. Et il peut nous bénir selon sa volonté. C'est arrivé à Néphi, le fils d'Élaman, qui a atteint le point où le Seigneur lui faisait totalement confiance et de ce fait pouvait le bénir dans tout ce qu'il demandait. Dans l'histoire de Pi, le roman de Yann Martel, le héros exprime ses sentiments sur le Christ. Je ne pouvais le chasser de mon esprit. J'en suis encore incapable. J'ai passé 3 journées complètes à penser à lui. Plus il me dérangeait, moins je pouvais l'oublier. Et plus j'apprenais à son sujet, moins je voulais l'abandonner. C'est exactement ce que je ressens pour le Sauveur. Il est toujours proche, surtout dans les endroits sacrés et dans les temps de besoin. Et parfois, quand je m'y attends le moins, j'ai comme l'impression qu'il me tape sur l'épaule pour que je sache qu'il m'aime. Je peux lui rendre cet amour de manière imparfaite en lui donnant mon cœur. Il y a quelques mois, j'étais à côté de Jeffrey Holland pendant qu'il affectait des missionnaires à leur mission. Quand nous sommes partis, il m'a attendu et tandis que nous marchions, il a mis son bras autour de mon épaule. Je lui ai fait remarquer qu'il avait déjà fait la même chose une fois en Australie. Il a répondu « C'est parce que je vous aime. » Et je savais que c'était vrai. Je crois que si nous avions l'honneur de marcher physiquement avec le Sauveur, nous pourrions sentir son bras entourer notre épaule de la même manière. Comme pour les disciples sur la route d'Emmaüs, notre cœur brûlerait au-dedans de nous. C'est là son message. Venez et voyez. C'est une invitation personnelle à marcher avec lui, son bras autour de nos épaules. Puissions-nous nous sentir aussi confiants qu'Enos, comme nous le voyons dans le dernier verset de son livre court mais profond. Je me réjouis en pensant au jour où mon corps mortel revêtira l'immortalité et se tiendra devant lui. Alors je verrai sa face avec plaisir et il me dira, viens à moi, béni. Il y a une place préparée pour toi dans les demeures de mon Père. Grâce à la multitude d'expériences et au pouvoir par lequel l'Esprit m'a rendu témoignage, je témoigne avec une certitude absolue que Dieu vit. Je ressens son amour. Puissions-nous faire ce qu'il faut pour conformer notre volonté à la sienne et l'aimer vraiment au nom de Jésus-Christ. Amen.
My dear brothers and sisters,
mes chers frères et sœurs, nous devons prendre des décisions tous les jours. Le président Monson nous a enseigné que nos décisions déterminent notre destinée. Il est crucial pour votre progression spirituelle, maintenant et pour l'éternité, d'utiliser avec sagesse votre liberté de prendre des décisions. On n'est jamais trop jeune pour apprendre, ni jamais trop vieux pour changer. Votre désir d'apprendre et de changer vient du besoin insufflé par Dieu de rechercher la progression éternelle. Chaque jour apporte des occasions de prendre des décisions pour l'éternité. Nous sommes des êtres éternels, enfants d'esprit de parents célestes. La Bible déclare « Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme ». J'ai récemment entendu un chœur d'enfants chanter le cantique bien-aimé « Je suis enfant de Dieu ». Je me suis demandé, pourquoi n'ai-je pas entendu ce chant interprété plus souvent par des mères ou des pères fidèles? Ne sommes-nous pas tous enfants de Dieu? En vérité, aucun de nous ne peut arrêter d'être un enfant de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme, même plus que nous n'aimons nos parents terrestres. Nous devons aimer nos voisins comme des frères et sœurs. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Et nous devons toujours respecter la valeur de la vie humaine à travers chacune de ses nombreuses étapes. Les Écritures enseignent que le corps et l'esprit sont l'âme de l'homme. De par cette dualité, vous pouvez chacun remercier Dieu de ses dons d'une valeur inestimable que sont votre corps et votre esprit. Les années où j'étais médecin m'ont donné un profond respect pour le corps humain. Créé par Dieu, ce don qu'il vous a fait est absolument stupéfiant. Pensez à vos yeux qui voient, vos oreilles qui entendent et vos doigts qui touchent toutes les choses merveilleuses qui vous entourent. Votre cerveau vous permet d'apprendre, de réfléchir et de raisonner. Votre cœur pompe inlassablement le jour et la nuit, quasiment sans que vous vous en rendiez compte. Votre corps se protège. La douleur vous avertit que quelque chose ne va pas et qu'il faut vous en occuper. Les maladies infectieuses frappent de temps à autre et lorsque c'est le cas, des anticorps se forment et augmentent votre résistance aux infections suivantes. Votre corps se répare tout seul. Les coutures et les contusions guérissent. Les os fracturés peuvent redevenir solides. Je n'ai cité qu'un minuscule échantillon des nombreuses qualités étonnantes de votre corps donné par Dieu. Malgré cela, il semble que dans chaque famille, si ce n'est dans chaque personne, certaines conditions physiques requièrent des soins particuliers. Le Seigneur a donné un processus pour venir à bout de ces difficultés. Il a dit, « Je donne aux hommes de la faiblesse, afin qu'ils soient humbles, car s'ils s'humilient et ont foi en moi, alors je rendrai fortes pour eux les choses qui sont faibles. » Des esprits merveilleux habitent souvent des corps imparfaits. Le don d'un tel corps peut en fait fortifier une famille lorsque les parents et les frères et sœurs édifient de bon cœur leur vie autour de l'enfant né avec des besoins spéciaux. Le vieillissement est aussi un don de Dieu, tout comme la mort. La mort de votre corps mortel est essentielle au grand plan divin du bonheur. Pourquoi? Parce que la mort permettra à votre esprit de retourner auprès de lui. D'un point de vue éternel, la mort n'est prématurée que pour ceux qui ne sont pas prêts à rencontrer Dieu. Comme votre corps est une partie si essentielle du plan éternel de Dieu, il n'est pas étonnant que l'apôtre Paul l'ait décrit comme le temple de Dieu. Chaque fois que vous vous regardez dans un miroir, considérez votre corps comme votre temple. Cette vérité dont vous devez tous les jours être reconnaissant peut positivement influencer vos décisions sur la façon de prendre soin de votre corps et l'usage que vous en ferez. Ces décisions détermineront votre destinée. Comment cela se peut-il? Parce que votre corps est le temple de votre esprit. Et l'usage que vous faites de votre corps a des répercussions sur votre esprit. Certaines décisions qui détermineront votre destinée éternelle portent notamment sur la manière dont vous allez prendre soin de votre corps et l'usage que vous en ferez, les qualités spirituelles que vous allez décider de cultiver. Votre esprit est une entité éternelle. Le Seigneur a dit à Abraham, son prophète, « Tu fus choisi avant ta naissance ». Le Seigneur dit quelque chose de similaire au sujet de Jérémie et de beaucoup d'autres. Il l'a même dit à votre sujet. Votre Père Céleste vous connaît depuis très longtemps. Vous, son fils ou sa fille, avez été choisis par lui pour venir sur terre à ce moment précis, pour être des dirigeants dans sa grande œuvre sur la terre. Vous avez été choisis, non pas pour vos caractéristiques physiques, mais pour vos qualités spirituelles comme la vaillance, le courage, l'intégrité de cœur, la soif de vérité et de sagesse, et le désir de servir autrui. Vous avez cultivé certaines de ces qualités dans la vie prémortelle. Vous pouvez en acquérir d'autres ici sur Terre en les recherchant continuellement. La maîtrise de soi, la force de faire passer la raison avant les appétits, est une qualité spirituelle cruciale. Elle construit une conscience forte, et votre conscience détermine votre conduite dans les situations difficiles, tentantes et éprouvantes. Le jeûne aide votre esprit à dominer vos appétits physiques. Il accroît aussi votre accès à l'aide divine, car il rend vos prières plus intenses. Pourquoi la maîtrise de soi est-elle nécessaire? Dieu a implanté en nous un appétit puissant pour la nourriture et l'amour, essentiel pour que le genre humain se perpétue. Lorsque nous maîtrisons nos appétits dans les limites fixées par les lois de Dieu, nous pouvons profiter d'une vie plus longue, de plus d'amour et d'une joie parfaite. Il n'est donc pas étonnant que la plupart des tentations de s'écarter du plan du bonheur de Dieu viennent de la mauvaise utilisation de ces appétits essentiels que Dieu nous a donnés. Il n'est pas toujours facile de contrôler nos appétits. Aucun de nous ne les gère parfaitement. Des erreurs se produisent, des fautes sont commises, et des péchés aussi. Que pouvons-nous faire alors? Nous pouvons tirer la leçon et nous pouvons véritablement nous repentir. Nous pouvons changer de comportement. Nos désirs même peuvent changer. Comment? D'une seule façon. Le véritable changement, un changement permanent, ne peut se produire que par l'intermédiaire du pouvoir guérisseur, purificateur et habilitant de l'expiation de Jésus-Christ. Il vous aime, chacun de vous. Il vous donne accès à son pouvoir lorsque vous respectez ses commandements avec empressement, ardeur et exactitude. C'est aussi simple et certain que cela. L'évangile de Jésus-Christ est un évangile de changement. Un esprit humain solide qui contrôle les appétits de la chair est maître des sentiments et des passions et n'en est pas esclave. Ce genre de liberté est aussi essentiel à l'esprit que l'oxygène l'est au corps. La libération de l'auto-esclavage est une véritable libération. Nous sommes libres de choisir la liberté, la vie éternelle, ou de choisir la captivité, le malheur et la mort. Lorsque nous choisissons le chemin plus élevé vers la liberté et la vie éternelle, il inclut le mariage. Les saints des derniers jours déclarent que le mariage de l'homme et de la femme est ordonné de Dieu et que la famille est essentielle au plan du Créateur pour la destinée éternelle de ses enfants. Nous savons aussi que le genre masculin ou féminin est une caractéristique essentielle de l'identité et de la raison d'être individuelle, prémortelle, mortelle et éternelle. Le mariage entre l'homme et la femme est fondamental pour la doctrine du Seigneur et le plan éternel de Dieu. Le mariage entre l'homme et la femme est le modèle divin d'une plénitude de vie sur terre et dans les cieux. Le modèle divin du mariage ne peut pas être mal mené, méconnu ou mal interprété. Pas si vous désirez une joie réelle. Le modèle divin du mariage protège le pouvoir sacré de la procréation et la joie de la véritable intimité conjugale. Nous savons qu'Adam et Ève ont été mariés par Dieu avant de pouvoir goûter à la joie de s'unir comme mari et femme. À notre époque, les gouvernements civils ont tout intérêt à protéger le mariage, parce que les familles solides constituent le meilleur moyen de pourvoir à la santé, à l'instruction, au bien-être et à la prospérité des générations montantes. Mais ils sont fortement influencés par les tendances de la société et les philosophies du monde lorsqu'ils rédigent, modifient et mettent en vigueur les lois. Quoique le droit civil puisse promulguer, la doctrine du Seigneur concernant le mariage et la moralité ne peut pas être changée. Rappelez-vous, le péché, même s'il est légalisé par l'homme, reste le péché aux yeux de Dieu. Nous devons avoir la même gentillesse et la même compassion que notre Sauveur. Nous devons accorder de l'importance aux droits et aux sentiments de tous les enfants de Dieu, mais nous ne pouvons pas changer sa doctrine. Il ne tient pas à nous de la changer. Ce qui nous incombe, c'est de l'étudier, de la comprendre et de la défendre. Le mode de vie du Sauveur est bon. Il comprend la chasteté avant le mariage et la fidélité totale dans le mariage. Le chemin du Seigneur est le seul qui nous permette de goûter au bonheur durable. Il apporte le réconfort durable à notre âme et la paix constante à notre foyer. Et par-dessus tout, il nous ramène à lui et à notre Père Céleste, à la vie éternelle et à l'exaltation. C'est l'essence même de l'œuvre et la gloire de Dieu. Mes chers frères et sœurs, nous devons prendre des décisions tous les jours et elles déterminent notre destinée. Un jour, chacun de nous comparaîtra en jugement devant le Seigneur. Nous aurons chacun une entrevue personnelle avec Jésus-Christ. Nous rendrons compte des décisions que nous avons prises au sujet de notre corps, de nos qualités spirituelles et de la façon dont nous avons honoré le modèle divin du mariage et de la famille. Je prie avec ferveur pour que nous prenions avec sagesse les décisions éternelles de chaque jour. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
At the conclusion of the conference.
À la fin de cette conférence, nous remercions sincèrement toutes les personnes qui ont travaillé diligemment à préparer ces réunions. Nous remercions les orateurs et les personnes qui ont interprété cette musique édifiante. Nous aurons maintenant l'honneur d'entendre le président Monson. Après son discours, le chœur clora cette conférence en chantant « Demeure auprès de moi, Seigneur ». Ensuite, Claudio R.M. Costa, des 70, fera la prière de clôture et la conférence prendra fin. Président Monson.
Mes frères et sœurs, mon cœur déborde d'émotion à la fin de cette merveilleuse conférence générale de l'Église. Nous avons été nourris spirituellement en écoutant les conseils et les témoignages des personnes qui ont participé à chacune des sessions. Nous avons été bénis de nous réunir ici, dans le magnifique centre de conférence, en paix et en sécurité. Cette conférence a eu une diffusion sans précédent, touchant des personnes du monde entier, dans tous les continents, par-delà les océans. Bien que nous soyons très éloignés de beaucoup d'entre vous, nous ressentons votre esprit. À nos frères qui ont été relevés lors de cette conférence, j'exprime au nom de l'ensemble de l'Église notre sincère reconnaissance pour vos années de service dévouées. On ne peut compter le nombre de personnes qui ont été bénies par votre contribution à l'œuvre du Seigneur. J'exprime ma gratitude au cœur du tabernacle et aux autres cœurs qui ont participé à cette conférence. La musique a été belle et a largement contribué à l'esprit que nous avons ressenti à chaque session. Je vous remercie pour vos prières en ma faveur et en faveur de toutes les autorités générales et officiers généraux de l'Église. Elles nous fortifient. Que les bénédictions du ciel vous accompagnent. Que vos foyers soient remplis d'amour, de courtoisie et de l'Esprit du Seigneur. Puissiez-vous constamment nourrir votre témoignage de l'Évangile, afin qu'il vous protège des tourments de l'adversaire. La conférence est maintenant terminée. Puissions-nous rentrer en sécurité dans nos foyers. Que l'esprit que nous avons ressenti ici demeure avec nous, tandis que nous vaquons à nos tâches quotidiennes. Puissions-nous manifester plus de gentillesse les uns à l'égard des autres. Puissions-nous toujours être occupés à l'œuvre du Seigneur. Mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Que sa paix, promise, soit avec vous maintenant et toujours. Je vous dis adieu jusqu'à ce que nous nous réunissions de nouveau dans 6 mois. Au nom de notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Our beloved Father in heaven.
Notre Père céleste bien-aimé, nous sommes si reconnaissants pour cette merveilleuse conférence générale, si reconnaissants pour tous les enseignements que nous avons reçus dans nos cœurs à travers le pouvoir du Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants pour nos prophètes vivants qui nous enseignent, nous conseillent dans ces derniers jours. Nous sommes si reconnaissants, Père, pour les bénédictions du rétablissement dont nous pouvons jouir aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants tout particulièrement pour le sacrifice expiatoire de ton Fils Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. À la fin de cette conférence, Père, nous te demandons humblement de nous donner la foi nécessaire et la force pour mettre en pratique toutes les choses que nous avons entendu ce week-end. Nous te demandons de bien vouloir bénir notre prophète bien-aimé Thomas Esmondson, ainsi que ses conseillers et le Collège des Douze, ainsi que tous les membres de ton Église et tous tes enfants à travers ce monde. Nous t'offrons cette prière, Père, et nous le faisons. Au nom sacré de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.
This has been a broadcast of the 100.
Vous venez d'assister à la 183e conférence générale d'octobre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les autorités générales et les officiers généraux de l'Église. La musique était interprétée par le chœur du Tabernacle Mormon. Cette émission a été diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Toute reproduction, enregistrement, transcription ou autre utilisation de cette émission sans autorisation écrite est interdite.